Le mardi 25 octobre 2016, les tribunes de l'ULB invitaient Françoise Tulkens, docteur en droit, vice-présidente à la Cour européenne des droits de l'homme et ancienne juge, et vice-présidente du comité scientifique de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Françoise Tulkens est docteur honoris causa des universités d'Ottawa, de Genève, de Limoges et de Gand. Ces tribunes avaient pour thème « Droits fondamentaux et sécurité, des alliés inséparables ».
Voilà, merci mille fois de votre invitation. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait d'abord un honneur, bien sûr, de venir ici, de parler ici. Puis c'est un plaisir aussi de revoir des étudiants, de discuter avec vous. Alors voilà, moi je vais le dire très modestement, mais je vais dédier cette intervention à Roger Lallemand. Parce que Roger Lallemand, peut-être que vous ne l'avez pas connu, parce que vous êtes tous... voilà. Mais pour moi, ça a vraiment été un point de repère, une référence dans ma vie à la fois professionnelle, dans une référence intellectuelle, une référence morale, une référence sociale, une référence politique. Alors voilà, je sais que maintenant, il vient de décéder. Eh bien donc voilà, je voudrais vraiment dédier ça à Roger Lallemand, parce que vous ne vous rendez pas compte, quand on est comme ça, jeune professionnel, dans le domaine du droit, des droits de l'homme, du droit pénal, d'avoir une figure comme lui, quand on est femme, parce que quand même, il a fait des combats magnifiques pour les femmes. Alors voilà, je voudrais lui dédier très modestement cette intervention. Alors voilà, ce soir j'ai pris un sujet difficile, oui, je le sais bien, et pourquoi j'ai pris ça? Parce que je pense que c'est précisément dans des enceintes universitaires, un peu comme celle-ci, que l'on peut aborder des questions difficiles, et qu'on peut les aborder avec sérieux, en profondeur, et avoir une vraie discussion. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, pour une série de bonnes ou de mauvaises raisons, parce que je crois qu'il y a vraiment les deux, ces questions de sécurité, comme tu l'as rappelé Patrick, elles sont devenues ou redevenues, parce qu'il ne faut pas croire que tout ça est nouveau, elles sont redevenues omniprésentes à la fois sur la scène nationale, sur la scène européenne, sur la scène internationale. C'est évident. Mais il est évident que les mesures annoncées, adoptées par les États, les organisations, comme par exemple l'Union européenne, puisqu'il y a une série de projets en ce sens, elles posent des questions extrêmement difficiles en termes de respect des droits fondamentaux. Non seulement ça pose des questions difficiles, mais ça pose aussi ou ça suscite d'immenses controverses. Ça suscite d'immenses controverses et des controverses qui sont à la fois profondes, passionnées, aussi bien au niveau politique qu'au niveau juridique. Alors moi, je ne m'étonne pas, je suis même contente qu'il y ait des controverses. Il n'y a pas de démocratie apaisée, ça n'existe pas. D'ailleurs, une démocratie apaisée, ça serait un mauvais signe. Il n'y a que des démocraties endormies. Donc voilà, il y a des controverses, c'est certain, mais le propre de la démocratie, c'est précisément ça qu'on va tâcher de faire, c'est de substituer à l'affrontement ou à la violence le débat contradictoire entre des personnes, des groupes, qui évidemment soutiennent et parfois farouchement des intérêts, des valeurs différentes, des intérêts concurrents. Et je pense que c'est précisément la responsabilité des intellectuels et des jeunes intellectuels que vous êtes, puisque vous êtes quand même les acteurs du droit de demain, de bien poser le problème et d'analyser sereinement, solidement les réponses qui y sont apportées. Donc voilà un peu pourquoi j'ai choisi ce sujet avec vous, parce que c'est vrai, c'est un sujet éminemment complexe. Je me dis pourquoi je n'ai pas pris quelque chose de plus simple. Mais voilà, parce que vous allez vous me stimuler. Alors, droit humain et sécurité, des alliés inséparables. Le titre de mon intervention indique évidemment bien la position qui est la mienne. Il l'indique clairement et je la soumets à votre analyse critique. Il me semble de plus en plus, et je l'ai vu à plusieurs endroits, que cette opposition entre les exigences des droits fondamentaux et les besoins de sécurité, c'est une apparence. Et c'est une apparence, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais c'est une apparence paresseusement entretenue. C'est facile de distinguer comme ça. C'est une apparence paresseusement entretenue et dont la principale fonction, c'est de classer les positions des uns et des autres, considérées évidemment comme des ennemis, dans des camps différents. C'est cette opposition que l'on voit partout et tout le temps, et qui, j'avoue, en fin de parcours, m'irrite un peu. C'est cette opposition entre les réalistes et les idéalistes, entre les pragmatiques et les laxistes, entre les responsables et les irresponsables, étant entendu, bien sûr, que les défenseurs des droits de l'homme, les droits de l'hommistes, comme on les qualifie parfois de manière bien péjorative, évidemment, ce sont ceux-là qui sont les irresponsables, les laxistes et qui ne comprennent rien à la réalité. Moi, je pense que cette opposition, elle est radicalement fausse. Elle est radicalement fausse. La sécurité, dans le respect, mais bien compris, des droits humains, c'est un gage d'efficacité. Et inversement, la sécurité au détriment des droits humains, c'est une illusion. Voilà, je dirais un peu mon point de vue. Voilà l'hypothèse qui est la mienne et que je vais tâcher tout doucement de vous démontrer, mais en vous permettant évidemment de la démolir selon les bonnes règles de la recherche scientifique que nous avons appris avec Karl Popper. Balibar, qui est venu dans cette université il n'y a pas longtemps, il a eu cette phrase que j'ai trouvée assez extraordinaire. Et c'est vrai que c'est une genre de phrase, moi, qui me, qui m'inspire. Il dit, si nous voulons repenser et changer le monde dans ce qu'il a d'inacceptable, nous devons privilégier la pensée complexe et renverser la fausse simplicité des concepts évidents. Eh bien, dans le domaine qui est le nôtre, pour moi, c'est exactement ça qu'il faut faire maintenant. On doit refuser la pensée simpliste, on doit privilégier la pensée complexe et ne pas s'engager toujours dans cette fausse simplicité des concepts évidents. Alors, je vais dans quelques mots, je vais d'abord parler de poser quelques jalons par rapport à ces notions qui sont quand même au cœur de la question du terrorisme, sécurité et danger. On en parle beaucoup, donc je voudrais d'abord poser quelques jalons à ce niveau-là. Et puis, je vais tâcher de poser dans leur contexte les questions des relations entre terrorisme et droits humains. Et je tâcherai alors, sur ce point-là, de montrer que l'obligation de lutter contre le terrorisme, c'est une obligation, bien entendu, mais que celle-ci est inséparable de l'obligation de respecter les droits humains dans ce qu'ils ont de plus fondamentaux. Donc voilà, je dirais un peu mon plan. Mais avant, je dirais d'engager le travail que je voudrais faire avec vous. Évidemment, je voudrais bien préciser que je vais faire ça au départ de la Convention européenne des droits de l'homme. Je vais faire ça au départ de la Convention des droits de l'homme, puisque voilà, j'ai eu cet honneur, et ce redoutable honneur, disons-le franchement, de servir cette convention comme juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, vous le savez, vous ne le savez pas, vous le saurez bientôt, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'œuvre maîtresse du Conseil de l'Europe. Ce Conseil de l'Europe, à Strasbourg, qui a été créé en 1949, et le lien, évidemment, avec l'Union européenne, ici, est très clair, il a été créé, cette convention, comme œuvre maîtresse du Conseil de l'Europe, a été créée en 1949 comme première tentative après la Seconde Guerre mondiale d'unifier l'Europe. Et ça, c'est un thème sur lequel on pourrait discuter à l'infini, mais qui est extrêmement important. C'est que cette idée du Conseil de l'Europe de créer une convention des droits de l'homme, c'était dans la perspective de l'unification européenne. Et c'est comme ça qu'on comprend beaucoup mieux, évidemment, ultérieurement, la Charte des droits fondamentaux de l'Union. 4 novembre 1950, Rome, Palais Barberini, au Capitole, vous allez tous le visiter, c'est magnifique. La Belgique était représentée par le ministre Paul-Henri Spaak, qui a quand même été un génie de la politique, disons-le. Cette convention est signée et elle est ouverte à la signature de 12 États. 12 États membres, la Belgique en était là, et puis progressivement, bien sûr, après la chute du mur de Berlin, cette convention a été ratifiée par 47 États européens qui représentent 800 millions de personnes. C'est vraiment la charte fondamentale de la Grande Europe, la Maison Commune Europe, comme disait Gorbatchev, qui a ouvert ses portes à un territoire évidemment immense, qui va de Vladivostok à Coimbra. Mais, et ce qui est important, il faut arrimer ce territoire immense au principe, et je cite, de pluralisme, de tolérance et d'esprit d'ouverture sans lequel il n'y a pas de société démocratique. Voilà cette Convention des droits de l'homme 1950 qui est vraiment, je dirais, un point focal. Et la Cour européenne, eh bien, elle a été instituée par la Convention. Elle a été instituée par la Convention comme un mécanisme de protection des droits reconnus par celle-ci. Et la Cour, elle assure la garantie collective des droits de l'homme et elle assure le contrôle externe. Ça, c'est, je dirais, en un mot, exactement ce qu'est la Cour des droits de l'homme. On n'est pas au-dessus des juridictions nationales, on assure le contrôle externe, parce qu'en matière de droits de l'homme, il faut un contrôle extérieur pour assurer la garantie de ceux-ci. Dans cette université, il faut quand même le dire, et ça je voudrais le répéter, c'est qu'il y a beaucoup de professeurs de cette université qui ont joué un rôle majeur dans l'élaboration de la Convention et dans sa mise en œuvre. Et ils ont contribué vraiment de manière décisive à un haut niveau de protection des droits de l'homme en Europe. Alors je vais vous citer des noms qui vous disent peut-être quelque chose, ça ne vous dit plus rien, parce qu'il y a évidemment des décalages de génération, mais ce sont quand même des pionniers dans ce domaine-là. Moi je pense à Henri Rollin, bien entendu, qui a joué un rôle majeur. Et quand on reprend ses écrits aujourd'hui, il avait quand même il a été visionnaire. C'est quand même lui qui a créé cet article 1 de la Convention qui dit « Les États reconnaissent les droits et libertés ». Dans tous les traités internationaux, c'est toujours la phraséologie classique, on dit « Les États s'engagent à reconnaître ». Et en bon juriste, il a dit « On va supprimer un mot et ça changera la face du monde ». Et c'est plus « Les États s'engagent à reconnaître », les États reconnaissent. Donc c'est une obligation forte. Donc Henri Rollin, que moi j'ai connu un tout petit peu, rien du tout, dans mon jeune temps, Walter Jean Gatzow van der Meer, Jacques Velu, c'est un peu les pères fondateurs. Et c'est vrai que la tradition d'excellence se poursuit ici à l'ULB, avec toi, Patrick, avec la faculté de droit, l'Institut d'études européennes. Voilà, et je trouve que c'est vraiment une belle tradition qui se poursuit, c'est pour ça que moi je suis heureuse d'être là. Voilà, alors, sécurité et danger, puisque c'est la première partie. Quelques jalons, parce que pour qu'on voit un peu dans quel contexte on travaille. Commençons par la sécurité. La sécurité, c'est envisager, qu'est-ce que c'est au fond la sécurité et à contrario l'insécurité. C'est l'absence d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne. Et moi, je vais partir de là. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a plusieurs droits fondamentaux, comme le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la vie privée et familiale, qui impliquent évidemment la nécessité de protéger la sécurité des personnes. Mais la sécurité en tant que telle, elle n'est pas conçue de façon autonome. Donc vous n'allez pas trouver dans la Convention européenne des droits de l'homme un texte ou une disposition qui institue le droit à la sécurité. L'article 5 ne vise que la sûreté, et la sûreté est envisagée essentiellement dans le contexte carcéral. Et il en va de même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et aussi dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union, où le droit à la sûreté vise à protéger contre les arrestations et les détentions arbitraires. Aujourd'hui, je fais une toute petite parenthèse, il y a tellement de textes qui protègent les droits fondamentaux qu'on est en présence, en quelque sorte, de ressources assez extraordinaires, et c'est intéressant de travailler avec tous ces textes, aussi bien au niveau régional en Europe qu'au niveau international. Et ça, c'est vraiment une caractéristique d'aujourd'hui dans laquelle vous avez bien la chance d'être. Alors, cette référence à la sécurité, on va le trouver dans les pactes onusiens sur le droit civil et politique, 1966. Donc là, il y a une reconnaissance d'un droit à la sécurité. On va le trouver dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme, 69, dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 1981, dans la Charte arabe des droits de l'homme, parce que ça existe aussi, en 2004. Et l'intérêt de faire croiser ces textes, c'est que l'on voit que on inscrit, au fond, la sécurité dans une dimension sociale. Lorsqu'on le reconnaît comme droit dans ces textes, on lui reconnaît une dimension sociale, et on postule que la liberté exige non seulement que l'on protège la liberté personnelle de chacun, mais aussi que l'on assure la sécurité de tous au sein d'une société. Et donc c'est une extension du champ d'application de la liberté et à la sécurité au-delà des cas de détention. Certains trouvent que c'est une piste qu'il faudrait suivre. Pourquoi pas ? Oui, peut-être. Il y a là tout un débat sur lequel il serait vraiment intéressant d'aller beaucoup plus loin. Et on voit dans le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine, on voit des pistes en ce sens, d'inscrire parmi les droits civils et politiques le droit à la sécurité. Alors, ça pose évidemment une série d'objections. Et c'est intéressant dans vos cours, précisément, de droits fondamentaux, de droits internationaux, de droits constitutionnels. Parce que l'intérêt des droits de l'homme, si je peux dire, c'est que ça traverse toutes les disciplines. Ça traverse toutes les disciplines, aussi bien l'international que le national, bien sûr, aussi bien l'administratif que le pénal, et le constitutionnel. Donc, pas de droit à la sécurité dans la Convention pour le moment, parce qu'il y a des objections, et les objections, c'est de dire qu'on ne peut pas instituer un droit à la sécurité comme un vrai droit créance, un droit dont on pourrait exiger la réalisation devant un juge. Certains disent ça, c'est aller beaucoup trop loin, et donc il y a là un débat, mais c'est un débat qui est en cours. Il y a Julien Pierret ici qui a fait sa thèse de doctorat sur cette question-là. Il a fait ça il y a quelques années, précisément pour interroger ce point de savoir s'il fallait reconnaître la sécurité comme droit fondamental. Donc dans l'état actuel des choses, non. La question du danger. La question du danger, il y a un bon dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit. Et il dit ceci: la sécurité est définie comme l'état résultant de l'absence d'une impression de danger ou la situation correspondant à l'absence réelle de danger. Et ça, c'est pour moi vraiment une définition intéressante parce que ça montre la double dimension objective et subjective du concept de danger. La question de la sécurité est indissociable de celle du danger. Quand je dis que c'est indissociable de celle du danger, c'est aussi de la peur qui l'accompagne. Alors d'accord, aujourd'hui on peut le dire, le terrorisme peut être considéré comme représentant le danger le plus grave. Mais, il y a quand même un mais. Et pour moi ce mais est important, c'est que dans le contexte actuel, qui est un contexte national et international, je dirais un brin délétère quand même, un contexte de crise sociale, économique, politique, tout devient danger ou presque. Et on voit bien, alors, dans ce contexte-là, la recherche de boucs émissaires s'amplifie, les solidarités se resserrent, et de l'état de droit, on voit bien, et on le voit partout, aussi bien chez nous que dans d'autres pays, on bascule tout doucement à l'état d'urgence. Et l'état d'urgence, disons-le, c'est celui qui a toujours accompagné les dictatures. Et l'état d'urgence, c'est rien d'autre que l'état de sécurité. Alors que dans la philosophie politique de Hobbes, l'état, c'est celui qui doit mettre fin à la peur dans l'état de sécurité, et c'est pour ça que je suis tellement préoccupé de ce qui se met en place maintenant. C'est ça le rôle de l'État, c'est de mettre fin à la peur dans l'état de sécurité. Le schéma se renverse. Le schéma se renverse et l'État, parfois et trop souvent à mon avis, se fonde durablement sur la peur et il doit à tout prix d'une certaine manière l'entretenir parce qu'il tire d'elle sa légitimité. Et donc moi je ne le cache pas, voilà, je m'engage tout à fait en le disant et comme je ne suis plus à la Cour des droits de l'homme maintenant, je n'engage personne si ce n'est mon humble personne, donc je peux dire tout comme j'ai envie. Je regrette profondément que le pouvoir politique ne joue pas plus son rôle de pacificateur. C'est ça que le pouvoir politique doit faire dans l'État ou dans la situation où nous sommes. Et les peurs sont souvent exploitées. Elles sont souvent exploitées. Elles vont se concentrer, évidemment, aujourd'hui, essentiellement sur l'autre. En anglais, quand on parle de « autre », il y a trois substantifs, trois mots que l'on emploie à ça. On parle tout d'abord du « foreigner », ça, celui qui a une autre nationalité. Mais on parle aussi du « stranger ». Le stranger, c'est aussi l'étranger, mais c'est celui qui n'est pas membre de notre communauté. Et c'est cette notion de stranger qui amalgame alors, et on le voit tellement souvent, les réfugiés, les immigrés, les musulmans, les roms, qui deviennent alors, et là on tombe sur la troisième signification du mot étranger en anglais, qu'ils viennent des aliens, c'est-à-dire des ennemis. Et donc on assiste aujourd'hui à une intolérance croissante, renforcée par le pouvoir dévastateur pour moi des stéréotypes autour de certaines personnes, certaines communautés, certains groupes dont on pense qu'ils nous menacent. Et il y a toujours un peu cette idée que les autres sont de trop. Il y a le poète brésilien qui s'appelle Ivo Levo, que je trouverai, Ledo, qui est vraiment qui dit ceci, les étrangers occupent nos places même quand nous sommes assis et qu'ils voyagent debout. Et ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et alors aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur cette question. Donc la question des migrations, j'avais envie de parler de ça. Mais voilà, je ne l'ai pas fait parce que j'ai choisi un autre sujet. Mais elle est cruciale. Et elle est cruciale parce qu'évidemment, elle croise celle du terrorisme. Ça, c'est bien sûr. Et l'histoire, moi j'en suis sûre, va nous reprocher l'Europe forteresse, les drames humains dont nous sommes témoins tous les jours en Méditerranée, dans les Balkans, en Grèce. On parle toujours de la crise des réfugiés. Ce n'est pas du tout la crise des réfugiés, c'est la crise de l'asile, ce qui est tout à fait autre chose. C'est tout à fait différent. L'Europe se barricade, elle construit des murs, et comme si les murs allaient les protéger de l'invasion. Ça, c'est pour moi une illusion totalement absolue. D'ailleurs, cette tentation du mur, j'ai un peu travaillé cette question des murs, parce que je trouve qu'elle est tellement forte à la fois symboliquement et matériellement. Et la tentation des murs, c'est pas du tout nouveau. Et quelqu'un a écrit ceci, chaque fois qu'une culture ou qu'une civilisation n'a pas réussi à penser l'autre, à se penser avec l'autre, ou à penser l'autre en soi, ces raides préservations de pierre, de fer, de barbelés, d'idéologie se sont élevées. Et donc, aujourd'hui, la construction européenne, pour moi, est vraiment minée par ces pratiques. Elle est minée par ces pratiques, elle est remise en cause, l'Europe s'isole, et l'isolement n'a pas de futur. L'isolement n'a pas de futur, c'est l'ignorance, et à partir de l'ignorance, c'est aussi le soupçon. Benoît Friedman, qui est un autre professeur de votre université, il a développé un thème que je trouve magnifique et vous aussi, lui devrait aller plus loin là-dessus. Il faudrait inventer le droit à l'hospitalité. Je ne dis pas la générosité, le droit à l'hospitalité. Ça, je trouve un thème vraiment fort. Le droit pour tous les étrangers, tous les autres, d'être non pas traité en ennemi, mais en être humain, tout simplement, le droit d'être membre d'une communauté. Donc voilà, je dirais un peu la mise en perspective, parce qu'on ne peut pas dissocier la question de la lutte contre le terrorisme, de la situation et du contexte dans lequel on est. Et ce contexte dans lequel on est, parce que les choses sont liées, c'est d'une part la question sécurité et insécurité, qui est évidemment étroitement liée à la question du danger, parce que sinon ce sont des considérations tout à fait abstraites et tout à fait fantasmagoriques. Donc il faut le resituer dans cet ensemble-là. Alors je reviens maintenant au gros de mon sujet, les relations paradoxales entre terrorisme et droits de l'homme. Relations paradoxales entre terrorisme et droits de l'homme. Dans ce domaine, on est vraiment confronté à un paradoxe. C'est pour ça que mon second point, je l'ai intitulé « Les relations paradoxales entre terrorisme et droits de l'homme ». C'est un paradoxe, ce n'est pas une contradiction. Parce qu'une contradiction, ça je dirais, c'est assez facile, c'est comme un nœud, on dénoue. Tandis qu'un paradoxe, on doit l'assumer. On doit assumer un paradoxe, c'est un état de fait, c'est une situation. Il faut l'assumer tout en étant bien conscient de la complexité des conséquences qui en découlent. Et il faut aussi l'éclairer. Il faut éclairer les paradoxes à la lumière des différentes composantes. Alors, ce paradoxe est le suivant, il est bien classique et on le connaît. D'un côté, il est largement admis que le terrorisme pose une menace à la jouissance des droits humains et des valeurs fondamentales. Ça, pour moi, c'est une évidence. Il y a un arrêt très, très ancien de la Cour Irlande contre le Royaume-Uni en 78. Irlande contre le Royaume-Uni, ça vous renvoie évidemment à la situation irlandaise, qui était une situation de violence. La Cour va dire avec force que les activités terroristes, et je cite, sont manifestement contraires aux droits de l'homme. On ne peut pas être plus net. C'est évident que c'est une menace à la jouissance des droits humains. Le terrorisme est une violation flagrante de ceux-ci. Mais d'un autre côté, et voilà le paradoxe, la lutte contre le terrorisme peut aussi entraîner l'érosion d'un certain nombre de libertés et de droits individuels et collectifs aussi, parce que le double aspect, et c'est là que la vigilance s'impose. Donc c'est une relation paradoxale, et on est devant ce paradoxe qu'il faut assumer et éclairer. Et c'est ça que je vais essayer de faire avec vous. Alors certains décrivent ce paradoxe comme le lien direct et indirect entre droits de l'homme et terrorisme. Le lien est direct. Lorsque les activités terroristes tuent, blessent des civils innocents, les privent de la liberté, détruisent leurs biens, mettent en péril les biens collectifs, la sécurité nationale, l'ordre public. Il est indirect lorsque la réponse de l'État au terrorisme conduit à l'adoption de pratiques et de politiques qui sont susceptibles de saper les droits fondamentaux. Donc, pour le dire encore autrement, les États, et c'est difficile, les États sont confrontés à une double responsabilité. Ils sont confrontés à une double responsabilité, celle de combattre le terrorisme et en même temps de respecter les droits humains fondamentaux dans la mise en œuvre des mesures antiterroristes. Et c'est là ce que je vous dis au début, l'opposition entre ces deux, pour moi, elle est fausse. Elle est fausse, elle est simpliste. D'ailleurs, le terrorisme n'est pas le seul ou la seule situation. Il y a d'autres conflits violents. Il y a dans d'autres conflits violents, les États sont confrontés, je dirais, à une tension d'une dimension tragique, et on le voit très bien ici. Et la question qui est au cœur de ça, c'est dans quelle mesure les limitations aux droits fondamentaux peuvent être justifiées au nom de la protection de ces mêmes droits et de la société démocratique elle-même. Donc ça, c'est évidemment une question cruciale, et c'est devant des questions telles que celle-là que la Cour s'est trouvée confrontée. C'est des questions comme ça dans lesquelles on a été confronté. Alors le dire en un mot, et après ça je le déploierai, depuis les années 2000 à peu près, moi je suis arrivée en 98, donc je ne peux pas tout à fait dire ce qui s'est passé avant, mais depuis les années 2000, ça je l'ai vu dans toute une série d'affaires qui sont arrivées à la Cour, parce que tout ce qui fait problème dans la société, nationale ou internationale, tôt ou tard, ça arrive à la Cour, bien entendu. La Cour a été amenée à se prononcer à de multiples reprises sur des mesures sécuritaires adoptées par les États. Dans de nombreux arrêts, elle a estimé que les obligations des États de protéger les droits peuvent, dans certaines circonstances et à certaines conditions, justifier des restrictions à d'autres droits reconnus dans la Convention. Donc il ne faut pas du tout dire que la Cour est aveugle. Non, elle a, et je vous le montrerai dans un moment, elle a montré qu'il y avait des obligations, dans certaines circonstances, d'accepter des restrictions à d'autres droits reconnus par la Convention. Mais, et c'est là que justement, je ne dirais pas le paradoxe, mais c'est là la manière de prendre les deux ensemble, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. Oui, dans certains cas, il peut y avoir des limitations, mais ces limitations ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'obligation de protection soit remplie et qu'il n'y a aucune possibilité d'agir autrement. Il y a juste l'exception de la torture, où là, c'est un droit absolu, et j'y reviendrai dans un moment. Donc voilà, je dirais, in a nutshell, comme disent les Anglais, la situation, la position qui a été celle de la Cour à partir de ces années 2000. Relation paradoxale entre terrorisme et droits de l'homme, voilà ce second point. Un paradoxe qu'il faut assumer et qu'il faut éclairer. C'est un paradoxe que l'on trouve en matière de terrorisme et dans d'autres situations, en tout cas aussi de conflits violents. Il ne faut pas tout focaliser aussi comme s'il n'y avait que les questions de terrorisme qui posent. Mais non, il y a toute une série d'autres situations de conflits violents dans lesquelles on doit trouver un équilibre entre ces composantes. Alors, troisième point de mon intervention. C'est logique, l'obligation de lutter contre le terrorisme. Et puis le quatrième, ça sera l'obligation de respecter les droits fondamentaux. Les États ont l'obligation de lutter contre le terrorisme. Il y a l'obligation ou le devoir, mais je préfère parler d'obligation. Et il y a deux raisons qui font cette obligation. Et je vais les évoquer tour à tour. Et elles procèdent de l'idée que la Convention, elle n'opère pas dans un vide, mais elle opère dans un contexte politique et social déterminé. Dans la Convention des droits de l'homme, le droit qui est directement impliqué par le terrorisme, c'est le droit à la vie. C'est le droit à la vie, l'article 2 de la Convention, droit absolu, indérogeable, le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Et donc c'est ce droit à la vie qui est la source première de l'obligation pour les États de protéger contre les actes de terrorisme. Quand je vous dis qu'il y avait deux raisons, eh bien voilà la première. La première, c'est que par rapport à un droit absolu, indérogeable, il y a une obligation pour l'État de protéger la vie des personnes. Donc la légitimité de la lutte contre le terrorisme trouve sa justification et trouvera aussi sa limite, parce que c'est un droit dans lequel il y a effectivement des limitations, trouve sa justification et sa limite dans la protection de la vie de la population. Et ça, c'est pour moi un point important, parce que ça soustrait l'idée de la lutte contre le terrorisme à toute abstraction, telle que l'idée que c'est la raison d'État, c'est la sécurité nationale. C'est beaucoup plus concret. C'est assurer la protection de la vie des personnes. Et ça, c'est une exigence vraiment fondamentale. Et ce principe selon lequel les États sont tenus de prendre des mesures raisonnables propres à protéger les personnes qui se trouvent dans leur juridiction et de les protéger contre les atteintes à la vie, c'est un principe qui a été reconnu depuis toujours dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un arrêt un peu plus récent, en 98, qui dit « Nul ne constate que l'obligation de l'État va au-delà ». Même, et donc cet arrêt va encore au-delà, va au-delà du devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète susceptible de dissuader les atteintes contre les personnes et s'appuyant aussi sur un mécanisme d'application. Il ne suffit pas d'avoir une loi, il faut aussi la mettre en œuvre, mais il faut également un mécanisme d'application qui peut en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Donc, aujourd'hui, cette obligation de respecter la vie, c'est ça qui est intéressant, met à charge des autorités une obligation positive de prendre des mesures à la fois préventives et répressives. Et l'idée des mesures préventives est évidemment un point essentiel. C'est un point essentiel et s'agissant du terrorisme, l'obligation positive pour les États peut être de mettre en place des stratégies effectives de prévention et de poursuite. Ça, c'est une obligation que l'on trouve maintenant dans le cadre de cette obligation de lutter contre le terrorisme. Il va y avoir un arrêt qui va être rendu tout prochainement. C'est une affaire contre la Russie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais enfin, certains d'entre vous se rappellent peut-être cette prise d'otage dans l'école de Beslan, en Tchétchénie. Il y a une prise d'otage dans une école en Tchétchénie par un groupe de terrorisme lourdement armé qui provenait de l'Ingouchie voisine. Quand on voit où est la Tchétchénie, évidemment, toutes les affaires contre la Russie, elles concernaient la Tchétchénie. Ça, c'est clair. C'était la question politique cruciale et ce l'est d'ailleurs encore toujours à ce moment-là. Et donc, il y a eu effectivement cette prise d'otage dans l'école de Beslan. Et ça date évidemment de 2004. Je reconnais qu'on était en 2016. Et que disent les requérants qui sont venus devant la Cour, puisque ceux qui introduisent des requêtes devant la Cour, on les appelle les requérants. Ils disent qu'il n'y a pas eu de mesure de prévention malgré le fait que les services de renseignement étaient informés du risque d'atteinte et de la présence de terrorisme dans la zone. Donc c'est là-dessus qu'ils se sont focalisés. Et il serait vraiment intéressant de voir comment dans cet arrêt qui va sortir un de ces jours, donc si vous serez encore étudiant, j'imagine, dans un de ces jours, donc pendant quelques mois, eh bien ça serait vraiment intéressant de voir comment cette obligation de prévention va être concrétisée par la Cour, parce que c'est une obligation difficile, délicate évidemment. Et donc ça, moi je serais très curieuse aussi de voir comment ça va s'organiser. Donc, obligation de lutter contre le terrorisme, respecter le droit à la vie, ça peut aller jusqu'à des mesures de prévention et on verra comment cette notion sera concrétisée. Mais, et c'est toujours un mais, c'est pour ça qu'on passe toujours d'un équilibre, cette obligation n'est pas illimitée. L'obligation de l'État n'est pas illimitée, parce qu'à trop insister sur cette affaire-là, sur l'obligation de l'État de lutter contre le terrorisme et de protéger la vie, eh bien, on va, à un moment donné, imposer à l'État une obligation complètement déraisonnable, tout à fait impossible. On va lui imposer un fardeau insupportable ou excessif. Donc, la responsabilité de l'État, parce qu'il faut être de bon compte, il faut assurer, gérer l'équité des positions en présence, la responsabilité de l'État ne peut pas être engagée simplement parce que l'événement qu'il fallait prévenir ces produits, il faut montrer que l'État a pu prendre certaines mesures propres à empêcher la survenance de l'événement. Et puis encore, et donc tout ça oblige à avoir une réflexion plus nuancée plutôt que blanc, noir, oui, non, d'accord, pas d'accord. L'État, oui, a une obligation, on verra jusqu'où elle va. Elle n'est pas illimitée parce qu'on ne peut pas non plus lui imposer des choses impossibles. Savait-il, pouvait-il savoir, a-t-il pris des mesures pour empêcher ? Lorsque les mesures antiterroristes sont justifiées, il doit aussi, ça c'est un autre aspect de cette obligation, et c'est pour ça qu'il faut prendre les choses ensemble, il doit réduire au minimum le risque pour la vie. Toujours une affaire russe, parce que beaucoup d'affaires russes ont été concernées par ça, c'est la question du siège en octobre 2002 du théâtre Moscovite. Il y avait un théâtre à Moscou, c'est un peu tragique à dire, mais c'est vraiment la répétition du Bataclan. C'est la répétition du Bataclan, mais en Russie, c'était le siège par les terroristes du théâtre Moscovite qui s'appelait Dubrovska, par des séparatistes tchétchènes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une autre forme de terrorisme, mais il y a 10 ans, ça n'était une autre, et dans 20 ans, ça sera aussi encore une autre. Et alors là, la police avait décidé de libérer les otages en diffusant un gaz. Il avait diffuser un gaz qui, évidemment, avait mis les terroristes hors d'état de nuire. Alors, qu'est-ce que la Cour a dit ? Elle a dit, dans cette situation-là, l'utilisation du gaz pendant le siège du théâtre était justifiée. Elle était justifiée puisqu'il y avait une nécessité de protéger les otages. Et donc, elle dit qu'il n'y a pas de violation substantielle, quant au fond, de droit à la vie. Parce que, effectivement, l'utilisation du gaz était justifiée pour résoudre la crise des otages. Mais, elle a dit, il y a quand même une violation procédurale du droit à la vie. Pourquoi est-ce que ça veut dire une violation procédurale ? Lorsqu'on met une opération en place de ce type, une opération de ce type qui va jusqu'à utiliser contre les terroristes un gaz qui est évidemment un gaz mortel, cette opération devait être planifiée et mise en œuvre de manière solide. Et donc c'est là que la Cour a trouvé qu'il y avait problème. Cette opération avait été mal planifiée, l'opération avait été mal mise en œuvre, les secours étaient arrivés de manière tout à fait chaotique. Donc il y avait, et alors en plus, il y a eu une enquête sur tout ce qui s'était passé qui a été extrêmement négligente et qui en définitive n'a amené à rien. Donc oui, bien sûr que dans certaines situations, on peut accepter que l'utilisation d'un gaz, mais obligation procédurale, si vous prenez la responsabilité d'aller aussi loin, ça doit être planifié, organisé de manière solide, de manière sérieuse. Et c'est souvent là que les questions, évidemment, c'est peut-être plus proche de vous, il y a un arrêt beaucoup plus récent de la Cour qui s'appelle Amani da Silva contre le Royaume-Uni. C'est la mort d'un ressortissant brésilien par erreur par la police qui l'avait pris pour un kamikaze. Ça, c'est date il y a quelques années. C'était un gars qui était dans le métro et puis d'un coup, la police a cru que ce jeune homme, qui n'avait rien du tout à voir avec rien, ils ont cru que c'était un kamikaze. Et effectivement, il a été abattu et bien sûr, sa famille s'est présentée devant la Cour des droits de l'homme. Et là, la question était... Effectivement, il y avait une erreur tragique de la part de la police et la Cour a estimé qu'il n'y avait pas de violation du droit à la vie. Donc c'est un arrêt qui est quand même fort et qui est dur pour ceux qui disent que la Cour est tout le temps laxiste. Pardonnez-moi, mais alors là, ils n'ont pas lu les arrêts. Là, la Cour a dit non, la procédure dans son ensemble n'a pas manqué à cette obligation de mener une enquête effective. Il y a des choses qui se passent, des choses extrêmement problématiques, eh bien il faut mener des enquêtes. Il faut mener des enquêtes et c'est ça l'obligation de l'État. Donc voilà, dire que la Cour interdit aux États démocratiques de lutter contre le terrorisme, pour moi c'est faux. C'est faux, mais c'est faux et c'est même un brin mensonger. Mais toute autre chose, les États doivent prendre des mesures utiles, adéquates et non pas illusoires. C'est ça pour moi le point central. Des mesures utiles, adéquates et non pas illusoires. Je ne vais pas m'étendre sur le problème, mais la question de la déchéance de la nationalité, comme la France a voulu le mettre en place à un moment donné, voilà pour moi le parfait contre-exemple. C'est le parfait contre-exemple. Et on a d'ailleurs maintenant des requêtes devant la Cour qui concernent des déchéances de la nationalité pour, dans un contexte, enfin vous verrez ces affaires, elles s'appellent comment, Goumi contre France, mais elles sont pendantes. Première raison, le droit à la vie. Seconde raison, mais dans le contexte problématique tel que je tâche, j'espère, de l'expliquer le plus clairement possible. Seconde raison pour laquelle les États ont l'obligation, au regard de la Convention, de lutter contre le terrorisme, c'est plus complexe encore, c'est qu'elle découle de la menace que le terrorisme pose au régime démocratique d'un pays. Ça, c'est un point crucial. C'est un point crucial. Les actes terroristes n'affectent pas seulement les droits humains individuels, le droit à la vie, mais leur objectif inclut souvent la neutralisation, voire même la destruction du système politique dans son ensemble. Et les méthodes terroristes, lorsqu'elles visent à provoquer un changement politique par la violence, sont évidemment opposées aux principes fondamentaux de la démocratie qui requiert la résolution pacifique des conflits politiques. Et donc, comme disait l'ancien président de la Cour suprême d'Israël, si nous ne protégeons pas la démocratie ne nous protégera pas non plus. Et donc, ça, c'est la seconde raison pour laquelle il y a une nécessité, c'est de lutter contre le terrorisme, c'est la menace qu'il pose au régime démocratique. Le préambule de la Convention, les préambules de ces textes internationaux, surtout en matière de droits de l'homme, sont toujours magnifiques. Il faut les lire et les relire. Il dit « Le maintien des libertés fondamentales repose sur un régime politique véritablement démocratique. » Donc le droit européen des droits de l'homme et le droit international des droits de l'homme obligent les États à assurer la protection, la préservation du système démocratique, du système de gouvernement démocratique. Or, évidemment, une manière de mettre en péril les institutions, les valeurs démocratiques, c'est évidemment d'inciter les gouvernements à lutter contre le terrorisme en employant des mesures antiterroristes qui mettent ces valeurs en péril. Ça, c'est une évidence. Les choses sont tout à fait liées. Il y a une formule célèbre de la Cour dans des arrêts anciens qui dit « On ne peut pas saper, voire détruire la démocratie au motif de la défendre. » Voilà, je dirais, pour l'obligation de lutter contre le terrorisme. Assurer le respect du droit à la vie, qui est un droit absolu, indérogeable, mais dans un contexte et avec des limites, un contexte raisonnable, et assurer la mesure la moins attentatoire possible. Maintenant, l'autre versant, et c'est mon quatrième point, l'obligation de respecter les droits humains. Donc, si l'État ne peut pas manquer à son obligation d'adopter des mesures antiterroristes sérieuses, il ne peut pas davantage manquer à son obligation de respecter les droits humains. Et ces droits humains, il s'y est engagé. Ce n'est pas une espèce de petite fantaisie qui tout d'un coup parvient. Il faut quand même remettre ça dans le contexte juridique qui est le nôtre. Il s'est engagé en signant les textes et en ratifiant les textes européens internationaux de protection des droits fondamentaux. La Déclaration des droits de l'homme, 48. La Convention européenne, 50. La Charte des droits fondamentaux, 2000, qui maintenant est obligatoire. Et donc, on doit quand même là, à cet égard-là, avoir une analyse fine. On ne peut pas dire que c'est comme ça simplement. Non, ce sont des textes internationaux auxquels les États et notre pays s'est engagé à ratifier. Et donc, il ne suffit pas simplement de fermer l'armoire ou bien de dire ben, « on change maintenant, on va chercher autre chose ». Ce sont des textes auxquels on s'est engagé. Maintenant, quelles sont les raisons qui font cette obligation de respecter les droits humains? Et moi, j'ai un peu l'impression que ces raisons, elles tournent autour de la nécessité d'assurer la légitimité des interventions. Et si on parle de légitimité des interventions, ça entraîne aussi leur efficacité. Et moi, je vois deux raisons, à travers les cas que j'ai vus. Hein, donc, ce n'est pas une construction intellectuelle, à travers les situations que j'ai constatées. Tout d'abord, les abus de pouvoir. Les droits de l'homme, et c'est leur fonction, ça c'est un peu historiquement la fonction des droits de l'homme, c'est de garantir contre les abus de pouvoir, et qui évidemment sapent de manière frontale la légitimité de la lutte contre le terrorisme. Or, ces abus de pouvoir, sous les formes de dérives, sous les formes de dérapages, qui constituent évidemment des violations graves des droits humains, c'est bien réel et c'est pas du tout imaginaire. Je vais prendre deux exemples qui m'ont vraiment frappé dans la jurisprudence de la Cour. Les attentats du 11 septembre, on le sait tous. Plusieurs pays en Europe, ça on le sait un peu moins, parce que ça a été quand même relativement discret, plusieurs pays en Europe ont porté assistance aux États-Unis. Ils ont porté assistance aux États-Unis pour la remise de la CIA et la détention secrète par la CIA sur le territoire de ces États européens de terroristes présumés avant de les renvoyer à Guantanamo. Et quand on les renvoyait à Guantanamo de cette manière-là, ça permettait évidemment de les soustraire aux règles de l'État de droit. Il y a eu un arrêt en 2012 où la Cour a condamné l'ex-république yougoslave de Macédoine qui avait aidé la CIA à enlever un Allemand qui a été mis au secret pendant plusieurs mois dans un hôtel à Skopje et puis après ça qui a été renvoyé à l'aéroport. Et quel était son tort? Voilà, l'affaire était malheureusement un peu tragique, c'est qu'il avait été victime tout simplement d'une erreur judiciaire, on s'était compris de nom. Alors, la Cour a dû conclure à la violation de l'article 3, l'interdit de la torture, des traitements inhumains et dégradants, aussi bien à l'hôtel qu'à l'aéroport, et elle a qualifié ce qui s'était passé de torture. Et elle a aussi souligné, ça c'est vraiment le point central, enfin, le premier point est très important aussi, mais le second aussi, que les victimes et le public ont droit à la vérité. Or, toutes ces opérations de la CIA ont été des opérations secrètes qui se sont déroulées non seulement en ex-République yougoslave de Macédoine, mais alors on a eu d'autres arrêts, je ne vais pas tous vous ennuyer avec ça, mais il y a eu d'autres sites noirs de la CIA. Il y a eu d'autres sites noirs de la CIA avec des techniques d'interrogatoire extrêmement avancées, des méthodes, des simulacres d'exécution, des noyades simulées, des positions inhumaines, l'enfermement dans des boîtes, des menaces de sévices à la famille, en Pologne, en Lituanie. Donc il y a toute une série d'affaires qui sont arrivées à la Cour où elle a été obligée évidemment de constater qu'il y avait torture. Et quand j'entendais à un moment donné à la radio, hein, parce que je ne le connais pas, Obama qui disait « oui, par rapport à Guantanamo, il y a quand même eu en Europe des situations de torture », ben oui, on l'avait dit. Oui, on le sait. On l'a vu. Donc, le risque d'abus, il est toujours présent. Et il est présent dans ce genre de choses, et c'est là précisément que les droits fondamentaux interviennent. Il faut protéger contre les abus. Le jour où les droits humains ne protégeront plus les personnes contre les abus de pouvoir, ben alors c'est fini. Alors c'est fini, ça. On est dans un autre régime. Il y a eu une audience le mois de juin dernier pour des affaires qui sont passées en Roumanie, en Lituanie. Et vous ne savez pas, mais il y a un rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion, la protection des droits de l'homme dans la lutte antiterroriste. Et c'est Ben Emmerson, un avocat anglais qui est extrêmement compétent et il demande d'intervenir dans la procédure comme tiers intervenant. Donc voilà, je dirais pour moi un premier point. Et un premier point qui n'est pas une espèce de crainte imaginaire, que voilà, j'ai vu, que j'ai constaté après toutes ces, à travers toutes ces séries d'affaires, qui est évidemment éminemment symptomatique du fait que le pouvoir entraîne toujours avec lui un abus de pouvoir, ça c'est clair. Et ici, on est en pleine, pas en pleine confusion, mais en plein secret. Second élément, c'est le risque d'arbitraire. L'obligation de combattre le terrorisme requiert des stratégies de prévention, de poursuite, mais on doit rappeler en permanence qu'elles doivent être menées de manière cohérente avec les principes de l'état de droit, je viendrai là-dessus dans un moment, pour assurer un contrôle sur la permanence et la nécessité des mesures. C'est là que va se jouer le contrôle, la permanence et la nécessité. Il ne suffit pas d'affirmer, il ne suffit pas de dire « il faut ». Non, le contrôle des droits humains, c'est de dire qu'il faut montrer la permanence et la nécessité pour éviter l'arbitraire, tout simplement. Sinon, il suffit d'affirmer et on ferme le grand livre. Et donc, alors, comment ce contrôle pour distinguer l'arbitraire, pour écarter l'arbitraire, va se nouer? Vous savez qu'en matière de droits de l'homme, il y a les droits absolus, les droits relatifs. Les droits absolus, il y a des droits absolus, il n'y en a pas beaucoup. Le droit à la vie est absolu, l'interdit de la torture est absolu, l'interdiction de l'esclavage, l'égalité des délits et des peines, le travail forcé. Et c'est surtout, évidemment, l'interdit de la torture qui nous intéresse ici. C'est un interdit absolu. C'est un interdit absolu, il n'y a pas de dérogation possible. Et par rapport à ça, la Cour s'est toujours montrée très ferme. Elle s'est toujours montrée très ferme et elle a dit, elle a répété encore dans des arrêts plus récents, malgré des pressions fortes qu'elle a eues, pas les gens individuellement, moi on ne m'a pas téléphoné, mais il y a eu des pressions devant la Cour pour qu'on change notre jurisprudence et qu'on reconnaisse que, eh bien effectivement, aujourd'hui, en 2015 ou en 2016, il faut accepter que la lutte contre le terrorisme peut s'accommoder de torture. Et malgré ces pressions très fortes de l'Angleterre, d'autres pays, la Cour a toujours dit, même dans les circonstances les plus difficiles, la lutte contre le terrorisme prohibe en termes absolus les peines et les traitements inhumains et dégradants et la torture. Alors vous allez dire pourquoi ? Pourquoi est-ce que la Cour, et là c'est vraiment un point crucial, moi, pourquoi est-ce que la Cour, dans une situation qu'aujourd'hui on qualifie d'extrêmement grave, et je suis d'accord, même si ce n'est pas la seule et ce n'est pas l'unique, il y en a eu auparavant, il y en aura ultérieurement aussi. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien ce pourquoi, pour moi, il faut le chercher dans cette valeur universelle de la dignité humaine. C'est ça qui est au cœur des droits fondamentaux. C'est cette valeur universelle de la dignité humaine qui doit être respectée par toute personne et qui nous distingue précisément d'un barbarie terroriste. Alors je suis d'accord que là, il y a une espèce de, il y a un point sur lequel il faudrait travailler, il faudrait aller beaucoup plus à fond avec la philosophie, avec la sociologie, pour travailler cette idée d'absolu, d'interdiction absolue de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Voilà, pour moi, je dirais, sa justification, elle est là. Elle est là parce que c'est ça le cœur des droits fondamentaux. Mais je comprends que certains disent, oui, mais est-ce que c'est une valeur universelle? Ça devrait être réfléchi. Donc, il y a là un terrain, si quelqu'un veut faire une thèse ou un mémoire ou je ne sais quoi, voilà donc un très joli travail à faire. Donc, le risque d'arbitraire en matière de droit absolu. Donc, il faut éviter tout risque d'arbitraire. En matière de droit absolu, il n'y a pas. Alors, il y a un arrêt contre la Belgique, Trabelsi. L'avocat général Van der Merch, qui est ici, le sait bien. Trabelsi contre la Belgique. La Cour a refusé l'extradition du requérant vers les États-Unis, où il était poursuivi pour des infractions liées au terrorisme, passibles d'une peine à perpétuité incompressible, c'est-à-dire sans aucune possibilité de réexamen. Et cette situation-là a été qualifiée par la Cour de torture. Alors, dans les autres droits, dans tous les autres droits, donc à part ces droits absolus, qui ne sont pas nombreux, je comprends qu'il n'y a pas trop de droits absolus, parce que l'exigence du lien social implique évidemment des accommodements, implique évidemment des restrictions. Dans tous les autres droits, eh bien, ils sont soumis à des exceptions, des limitations, des restrictions. Je ne vais pas aborder ici la question de l'article 15 et des dérogations, ça nous entraînerait trop loin. Je vais prendre deux droits dans lesquels, normalement, il y a des limitations, des exceptions, des restrictions qui sont possibles. Le droit au procès équitable et le droit au respect de la vie privée. L'article 6, le droit au respect équitable, un procès équitable. Alors ça, c'est évidemment, en matière de stratégie et de mesures antiterroristes, ce droit à un procès équitable est mis à l'épreuve par le droit au silence, la présomption d'innocence, les droits de la défense. Tout ce qui constitue des éléments du procès équitable sont évidemment des droits qui sont mis à l'épreuve par des mesures ou des stratégies antiterroristes. Les moyens utilisés, comme les témoignages anonymes, les techniques d'infiltration, le recours à des indicateurs, les méthodes particulières de recherche, les tribunaux spéciaux, on voit bien tout un ensemble de mesures qui existent et qui sont envisagées. Ça crée évidemment autant de situations à risque. Ça, c'est certain. Donc, l'article 6 sur le droit au procès équitable est vraiment mis à l'épreuve par l'ensemble de ces mesures antiterroristes. Et là, la question est vraiment cruciale, c'est que la recherche d'une efficacité immédiate faudra en plus qu'elle soit acquise, ou inversement, que si on propose, si effectivement on rentre dans des violations de ses droits à cet égard-là, eh bien la sécurité est obtenue. Ça, moi, je n'en suis pas certaine du tout. Mais donc la recherche d'une efficacité immédiate peut ouvrir la voie aux abus et à l'arbitraire. Et c'est bien pour ça que la Convention met l'accent sur la prééminence du droit, le rôle du juge dans la protection des droits de l'homme. Si j'ai choisi l'article 6, parce qu'on est vraiment au cœur de l'état de droit. On est vraiment au cœur de l'état de droit, et aujourd'hui, on doit quand même bien se rendre compte, et moi, ça me frappe énormément, ça me semble nouveau, en tout cas, moi, je n'avais pas entendu ça dans les années antérieures. Certains, alors que ça paraît un peu un pilier de tout, maintenant, certains, ça j'ai lu, disent, c'est une argutie juridique. Et maintenant, critiquer l'état de droit, ça devient même un peu à la mode. Ça devient un peu à la mode, on dit, mais oui, tout compte fait, qu'est-ce que c'est? Et ça devient en quelque sorte une posture acceptable. Et ça, je suis vraiment étonnée. Ça, je lis dans une série de choses. Oui, c'est une argutie juridique. Alors, qu'est-ce que c'est l'état de droit? Il ne faut pas non plus employer des grandes formules comme ça qui sont creuses. Qu'est-ce que c'est l'état de droit? C'est un état fondé sur le respect de la règle de droit et le rôle du juge, c'est ça, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher plus loin. C'est ça l'état de droit. Sur une règle de droit acceptée démocratiquement et un juge indépendant pour le mettre en œuvre. C'est ça le cœur de l'état de droit. Et donc c'est une garantie démocratique essentielle, même et surtout dans le contexte du terrorisme. Et quand on voit les lois sur l'état d'urgence, qui permettent maintenant, ou qui les projets de loi sur l'état d'urgence, on en voit en France, on voit des projets en Belgique, on en voit un peu partout, ça devient aussi un peu à la mode maintenant de parler de l'état d'urgence. Les lois ou les projets de loi sur l'état d'urgence qui permettent aux autorités administratives d'assigner des personnes à résidence, ou bien de placer en détention avec seulement un contrôle judiciaire après, une fois que c'est en détention, on contrôlera ce qui s'est passé, pour moi, sont évidemment des situations impossibles. Arrêter les personnes, ce n'est pas la tâche du politique. Ça, c'est une certitude. Ce n'est pas la tâche du politique, c'est la tâche du judiciaire. Et d'ailleurs, dans un pays qui vit dans un état d'urgence prolongé, dans lequel les opérations de police vont progressivement se substituer au pouvoir judiciaire, eh bien, on assiste, ça c'est certain, et historiquement on peut le voir, à une dégradation irréversible des institutions publiques. Vous avez, comme moi, lu dans la presse récemment que certains parlaient de la justice de précaution. On parle maintenant de la justice de précaution dans ce domaine. Elle est suggérée par certains responsables, j'allais presque dire irresponsables, politiques en France. Pour moi, c'est vraiment un triste exemple. Au nom du principe de précaution, qui est appliqué aux personnes comme aux produits dangereux, parce que ça vient de là, le principe de précaution, toute personne suspectée d'être liée au terrorisme pourrait faire l'objet d'un placement préventif en centre fermé. Alors là, on est vraiment dans l'état d'urgence, l'état de sécurité et l'état de droit n'existent plus. Toute personne suspectée d'être liée au terrorisme, si on prend tous ces mots l'un après l'autre, on est dans une situation de grand danger. Sur le procès équitable, comme le temps avant, je ne vais pas évoquer peut-être uniquement l'arrêt contre la Belgique. L'arrêt contre la Belgique, qui concerne un arrêt Elaski contre Belgique en 2012, le refus des tribunaux belges d'écarter des témoignages recueillis au Maroc qui présentaient le risque d'avoir été obtenus sur la torture. Et donc cette affaire arrive devant nous. Le requérant dit, oui, effectivement, les témoignages recueillis au Maroc ont été obtenus sur la torture. Alors la Cour a cherché, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'au Maroc, oui, sa situation telle que celle-là? Donc on a lu toute une série de rapports des Nations Unies, du Département d'État, des ONG. C'est vrai qu'à l'époque, le système judiciaire marocain n'offrait pas de garantie suffisante qu'il y avait un examen sérieux des preuves qui étaient faites. Et donc, la Cour a estimé que dans ce cas-là, eh bien, c'était une violation, un déni de justice flagrant, parce que le juge, en l'espèce, la Cour d'appel de Bruxelles, peut-être que tout le monde les connaît, la Cour d'appel de Bruxelles, c'était simplement à dire qu'il n'y a pas d'éléments concrets, à dire qu'il y a un doute raisonnable. Et la Cour a dit non. Si, effectivement, des témoignages sont récoltés sur la torture, d'ailleurs, soyons clairs, ces témoignages n'auront en tout cas pas leur validité ou en tout cas leur caractère fiable est largement mis en cause, eh bien non, là, il y avait une limite au niveau du procès équitable. La vie privée. J'aurais pu prendre des tas d'autres exemples. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la vie privée. J'aurais pu prendre d'autres droits comme la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est aussi évidemment mise à l'épreuve en matière de terrorisme, avec des questions difficiles, le discours de haine. Comment allons-nous articuler le discours de haine et la liberté d'expression. L'apologie du terrorisme, ça aussi, ce sont des questions qui mettent en perspective ou à l'épreuve qui est mise à l'épreuve par la question du terrorisme. La liberté de conscience, la liberté de pensée, de religion, donc tous ces droits à protection relative sont évidemment des droits susceptibles d'être impliqués. Moi, j'ai choisi ici la vie privée. Pourquoi j'ai choisi la vie privée ? Parce qu'il y a une question qui me préoccupe. Il y a une question qui me préoccupe, c'est la surveillance de masse. La surveillance de masse, donc je ne vais pas vous faire ici l'analyse de comment il faut analyser les ingérences dans les droits lorsque ça concerne la vie privée, parce que je vois que le temps passe et tu avais demandé qu'il y ait une discussion, donc je suis déjà beaucoup trop long, mille excuses. Mais je vais juste, alors voilà, les pages que je les aurais faites pour mon plaisir. Une question qui pose vraiment problème maintenant, c'est la surveillance de masse. Et ça, ce n'est pas une illusion. Ça, ce n'est pas une illusion, la surveillance de masse. On parle parfois de surveillance générale, non ciblée. C'est une tentation permanente dans de nombreux États. Et ça, c'est des questions cruciales aujourd'hui. C'est des questions cruciales aujourd'hui et dans lesquelles, au regard du droit à la vie privée, parce que c'est essentiellement cet élément-là qui est en cause, on voit maintenant aussi bien l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe un peu partout qu'il y a une attention extrême par rapport à ces mesures de surveillance de masse dont il n'est pas du tout dit d'abord qu'elles vont contribuer à prévenir les attentats terroristes, contrairement d'ailleurs à ce qui est affirmé, et qu'au contraire, les ressources qui sont utilisées pour prévenir ce genre de choses vont être détournées, ces ressources vont être détournées des possibilités d'intervenir de manière plus adéquate par rapport à la menace terroriste. Donc, s'agissant du droit au respect de la vie privée et de toutes les exigences qu'il faut avoir, la surveillance de masse aujourd'hui, c'est vraiment une préoccupation majeure. Voilà, je vais en rester là, peut-être un petit mot de conclusion, deux petits mots de conclusion. Tout ça pourrait développer infiniment plus loin et de manière plus approfondie, de manière plus forte, mais voilà, tout est à une limite dans ce bas-monde. La lutte contre le terrorisme, elle se mène pas contre le droit, mais avec le droit. C'est vraiment ça, pour moi, le point central. Et le droit international et européen des droits de l'homme ne s'oppose pas à ce que l'État prenne des mesures pour se protéger. La Convention n'est pas une convention suicidaire. C'est illusoire de croire que la Convention est une convention suicidaire. Non, mais l'exécutif ne peut pas être laissé dans une position de pouvoir sans contre-pouvoir. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça le cœur des droits fondamentaux. Il faut ce contre-pouvoir. Des restrictions sont possibles, mais elles doivent être limitées à ce qui est absolument nécessaire. À ce qui est absolument nécessaire, il ne faut pas simplement le dire, il faut aussi le montrer. C'est ça l'essentiel. Il faut le montrer. Et évidemment, ce type de choses, ce type d'exigence, qui est infiniment plus complexe que d'avoir une vision simpliste des choses, ce type d'exigence s'accommode mal, évidemment, de législation à l'emporte-pièce. Et ça, on le voit. Il y a un problème, hop, une législation. Ça ne s'accommode pas parce qu'il faut travailler ça de manière beaucoup plus fine. Et la peur n'est pas une raison valable de porter atteinte aux droits de l'homme. Et dans une réalité aussi complexe que le terrorisme, pour moi, les gouvernements doivent faire de pédagogie et pas de démagogie. Et ça, on doit le demander. Je trouve qu'on doit l'exiger. On doit l'exiger parce que je dirais que c'est ça la réalité. Vous connaissez peut-être ce poète Peggy qui n'était certainement pas un révolutionnaire. Hein, certainement pas, il n'était pas un anarchiste. Mais il dit ceci, le triomphe des démagogies est passager, mais les ruines sont éternel. Alors voilà, je ne vais pas aller au-delà. Voilà un peu sur cette question éminemment complexe ce que je voulais vous dire provisoirement ce soir, mais le débat est ouvert à toutes les questions que vous voulez me poser. Voilà. Merci beaucoup.
D'écouter une tribune de l'ULB sur le thème « Droits fondamentaux et sécurité, des alliés inséparables ». Françoise Tulkens, docteur en droit, vice-présidente à la Cour européenne des droits de l'homme et ancienne juge et vice-présidente du comité scientifique de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, était enregistrée le mardi 25 octobre 2016 au campus du Solbosch de l'Université libre de Bruxelles.
Les infos. On dit les infos et pas les infos. Parce qu'à Namur, on fait du vélo et pas du vélo. Ouais, on dit du vélo. C'est juste le O, hein. Mais c'est vraiment fou. Hein. Le O, nous, on dit O, parce qu'on écrit O, donc on le dit O. Si on veut dire O, on dit A-U. Quand c'est A-U, on dit O. Donc c'est nous qui avons raison.
Joli, Fredo. Quel à propos. Notre son O, je garde au chaud. Imaginez l'info-radio, genre lettre O. Je tombe à l'eau. Il n'y a plus de studio, plus de micro, et même plus de mots. Alors écoutez, Radio Campus, oh, c'est beau.